Eh bien, bonjour à tous et bienvenue dans notre bulletin d'information numéro 12, c'est ça?
Absolument,
Donc,
tout à fait.
novembre. On s'est vu pour la dernière fois il y a un peu plus d'un mois et il s'est passé pas mal de choses entre-temps. Donc, on va regarder ça dans un instant, mais avant, juste qu'on rappelle un petit peu qui on est, ce qu'on fait, etc., etc. Alors, je vous rappelle que le bulletin Azure, c'est toujours disponible sur aka.ms. On a toujours deux grandes catégories de bulletins. On a des témoignages d'un côté où on voit des références clients et des projets très concrets. Et puis on a le bulletin qui est la façon la plus simple de suivre l'actualité en français sur toutes les technos autour d'Azure. Donc avant c'était que Azure, mais maintenant on commence à avoir du Hadoop, on commence à avoir des médias, on commence à avoir un périmètre énorme. Et donc toujours une façon simple de suivre tout ça. Le Twitter qui vous permet de retrouver l'intégralité des annonces. L'autre Twitter, donc vous voyez qu'on est quatre sur la slide, on n'est que trois ici. On a perdu Benjamin qui est.
Qui est parti en mission
Oui, il est en train de faire une mission
pour
à
l'instant.
Toulon, si ma
À
mémoire est
Toulon,
bonne.
c'est ça.
Il paraît qu'il fait beau, je pense que c'est pour ça.
Ah ouais, c'est bien roulé.
Et donc son Twitter est le plus actif des quatre et vous avez énormément d'informations là-dessus, donc n'hésitez pas là-dessus. Alors, qui on a du coup?
Donc Benjamin Moulès, je suis évangéliste depuis peu, j'ai rejoint l'équipe et je me concentre plutôt sur la partie média, donc tout ce qui va être streaming en utilisant la plateforme Azure. On va en parler aujourd'hui.
Et Thomas Conté, moi je suis architecte Windows Azure bon, depuis un certain temps, plutôt généraliste et je me focalise sur nos partenaires pour les aider à déployer leurs applications sur Windows Azure.
Voilà, c'est le type qui fait marcher les trucs compliqués dont on prétend qu'ils sont faciles.
Voilà.
Ok, alors qu'est-ce qu'on a un petit peu à se raconter? Donc vous savez qu'il y a une émission en anglais qui est hebdomadaire, puis bimensuel, puis enfin c'est assez variable. Et donc là, on a combien d'épisodes en retard depuis notre mois
Ah,
d'octobre?
on a bien trois épisodes, hein. Alors, deux ou trois, mais deux consacrés aux mobile services. Donc mobile services, on va en reparler aussi un petit peu aujourd'hui, bien sûr, hein, mais c'est un des gros services qu'on a sorti récemment. Donc on a un qui est juste sur la mise à jour de mobile services qui a eu lieu, on va dire, en milieu de mois dernier. Et un deuxième qui est entièrement consacré au développement d'applications iOS avec mobile services.
D'accord.
Avec un monsieur qui fait tout sur un Mac, comme le ferait un vrai développeur d'application iOS. Voilà. Et on a
D'accord.
un dernier épisode qui est un témoignage de Murali, qui est donc un service, on va dire, haute performance qui tourne sur Windows Azure.
Ouais, que vous retrouverez aussi dans les keynotes de Build, dont on parlera dans quelques minutes.
Absolument.
Alors, actualité, donc en général, on parle des actualités américaine et puis ensuite on a ce qu'on a en France. Là, on a choisi de se concentrer sur ce qui arrive juste à Paris et en région pour les 6 semaines qui viennent parce que c'est
Il y a beaucoup de choses.
surchargé.
Ouais.
Et pour la partie actualité plus internationale, et ben on va se faire un petit topo sur ce qui s'est passé à Build puisque c'était la semaine dernière.
Exactement.
Donc on verra ça après. Première chose, alors je les ai prises par date.
Ça paraît bien.
On a un nouvel Azure Camp qui a lieu le 28 novembre à Paris, chez Microsoft, avec une thématique très précise. On va vous parler de toute la partie machine virtuelle, donc le réseau, la connectivité, les VHD, etc., etc. Il reste pas énormément de place, mais vous pouvez encore vous inscrire pendant quelques jours. Et donc, on aura pour la première fois des gens dont le métier est la gestion de production qui vont venir nous expliquer comment ils font le lien entre les environnements de production traditionnels et les environnements de production hybrides avec un peu de cloud, un petit peu de on-premise, un petit peu de system center, etc.
Ouais, ce qui est intéressant par rapport au DevCamp VM qui avait eu lieu en juin dernier où l'offre venait de sortir, finalement, là on a quand même quasiment 6 mois de recul. Donc on a des gens qui sont en production, qui utilisent vraiment les VM et qui vont faire des retours d'expérience sur concrètement comment on fait pour gérer un déploiement dans Azure. D'un point de vue IT vraiment, hein. On va parler administration système, administration réseau et peut-être un peu moins développement que
Voilà,
d'habitude.
un truc pour les barbus. Allez, suivant.
Exactement.
Alors, juste après, on a début décembre, plein de choses amusantes. Donc, on va commencer par l'Open Platform Services Summit.
Le Open Platform Services Summit, absolument, on organise le 4 décembre une conférence dédiée aux technologies open source sur Windows Azure. Donc c'est à Paris, place de la République, donc non loin du quartier des startups, on va dire, qui sont friandes de ce type de techno. Donc si on peut regarder sur l'agenda rapidement, on a une journée, tu es juste next. Next.
Oh, bah, je vais vous le montrer, effectivement, on a prévu une sur une slide.
Sur JMP, AZOT Summit, vous avez donc l'invitation, vous pouvez vous inscrire, c'est libre évidemment. Et donc on a une journée avec du PHP, du Java, du Ruby, du Python, donc tous les environnements qu'on a en mode plateforme as a service, d'accord, et également après en mode VM, donc avec des VM Windows, des VM Linux, sur lesquels on pourra tourner tous ces environnements. Et on va parler aussi données, avec MySQL, MongoDB, et toutes ces alternatives, on va dire, qu'on a sur Windows Azure et qui tournent bien. Donc toute une journée pour découvrir un peu le support de Windows Azure pour toutes ces technologies open source. Avec présenté par donc des gens qui viennent des US, des architectes qui viennent de Corp. Donc voilà, vous avez l'agenda là, et vous le retrouverez bien entendu si vous suivez ce lien, j.mp/azotsummit, pour vous inscrire.
Oui, on s'est trouvé un nouvel alias pour les sites. Ouais. Alors ça, c'est juste une journée, et donc c'est quelque chose où vous venez vous poser sur une chaise et écouter des choses intéressantes.
Absolument.
Maintenant, on peut aussi travailler d'une façon un petit peu différente et travailler soi-même.
Donc... Exactement. Alors juste derrière, on organise donc du 5 au 7 décembre une session plus type atelier. Hein, alors c'est un peu style hackathon, donc on se met dans une salle et pendant 3 jours, on travaille très concrètement sur un développement open source sur Azure. Donc là, c'est plus sur, entre guillemets, sur dossier. Donc on s'inscrit, il faut avoir un projet un peu concret, un peu quelque chose qui va partir en production. Nous, on a un partenaire et puis on est présent, nous les évangélistes. Donc en 3 jours, on essaie de vous avancer votre projet au maximum. Donc vous avez un projet qui est sur les technos non Microsoft, PHP, Ruby, etc. Vous avez un lien là pour vous inscrire à ZOSS Lab. Et sur validation, on va dire un peu de l'aspect concret de votre projet, eh ben, vous serez invité à venir passer 3 jours avec nous pour avancer techniquement. Donc c'est orienté développeur, on vient avec son laptop, son code source et on travaille 3 jours. Quoi.
D'accord. Alors il y a peut-être des gens qui ne sont pas sûrs de rentrer dans ce cadre-là. Donc si vous vous demandez si c'est bon pour vous, on a quelque chose qu'on a mis en place. Donc maintenant, ça fait 2 semaines que ça fonctionne. C'est l'accélérateur Windows Azure. Donc on en a déjà parlé. Le principe est tout bête. Vous allez donc sur akms/cloud pour découvrir un petit peu ce qu'on met à disposition là-dessus. Et dans ce programme, on a en gros des ressources techniques. Donc on va venir vous aider, vous accompagner sur les problèmes que vous rencontrez. On a un peu de communication pour vous si vous le souhaitez. On vous met en relation avec les uns et les autres. Et si jamais votre projet est effectivement éligible à un suivi plus poussé, ben dans ce cas-là, on vous oriente vers Thomas, par exemple, directement. Donc aujourd'hui, l'accélérateur permet plein de petites choses. Si vous arrivez à déployer un projet qui fonctionne bien grâce à l'accélérateur, on peut également communiquer sur ce projet. Donc on va avoir comme ça toute une série de petits articles ou d'explications sur ce que les gens font de concret avec Azure en passant par l'accélérateur. Voilà. Donc soit par mail, soit directement par inscription. Et n'hésitez pas, on est tous derrière à répondre à vos questions.
Excellent.
Bon, on passe rapidement sur les autres nouvelles locales. Hein. Vous connaissez la plupart de ces éléments-là, donc j'y reviens pas. Un élément très rapide, on a un programme qui s'appelle 3 semaines avec Azure, qui est un programme qui se déroule sur LinkedIn. Et on vous en parle pas beaucoup parce qu'il est déjà plein. Donc si jamais vous êtes en train de vous cogner le nez sur 3 semaines avec Azure parce qu'on vous dit que c'est plein, inscrivez-vous quand même et on va probablement reprogrammer une session. Mais on est obligé de limiter l'effectif parce qu'on a un suivi individuel avec les gens. Donc c'est pas possible d'accepter 100 personnes là-dessus. Bien, voilà pour la partie nouvelle locale. Alors, comme on a Benjamin maintenant qui nous rejoint et qui s'est spécialisé sur Media Services, il voulait nous toucher un tout petit mot de ce qui s'était passé récemment sur Media Services. Donc il va basculer sur son écran. Et nous raconter ça.
Peut-être que tu peux passer sur le slide d'avant. Il y a 2 slides qui montrent rapidement. Je les ai fait tout à l'heure pour toi.
Je suis ta télécommande.
Ça marche. Nickel. Donc tout d'abord, Azure Media Services, vraiment rappel très rapide, ça permet de faire encodage et donc les différents composants médias, on va pouvoir les gérer directement dans le cloud. On a pour cela, on a déjà aujourd'hui un SDK sur du .NET. On a aussi des API REST et maintenant on a donc un composant Nugget qui est installable directement dans Visual Studio. Donc sur le blog qui est très bien fait de Mingfei, elle montre comment l'installer. Donc je vous conseille d'aller jeter un œil. Slide suivant. Voilà, donc aujourd'hui, ces API sont en démo directement dans le portail. Donc vous allez pouvoir directement dans le portail, sur votre portail Azure, aller uploader une vidéo, l'encoder vers différents formats, faire du transmux, donc juste changer le format, par exemple, vers du smooth streaming, vers de l'HLS, ou rester sur du MP4 traditionnel, ou, et bien évidemment, faire une publication, donc récupérer l'URL pour après l'injecter dans votre player pour l'utiliser. À ce titre, toujours notre amie Mingfei a fait une démo dans Build, dont on va parler un petit peu après, où elle montre comment WAMS est utilisé pour les applications Windows 8. Mmh. Donc, elle a fait une démonstration intéressante où elle a utilisé le Media Framework qui permet de créer des players très complets avec des applications industrielles, comme par exemple avoir des advertisements, donc de la publicité, donc différents types de publicité, les sous-titres, du closed captioning, tout un tas de fonctionnalités intéressantes. Donc elle montre comment faire ça et elle s'appuie aussi évidemment sur un exemple américain assez connu qui s'appelle Hulu. On n'a pas d'équivalence encore en France, mais ça devrait venir. Et donc elle montre un petit peu comment basculer assez simplement. Je vais prendre la main pour cette partie-là. Vous devez voir mon écran. Donc là elle montre donc rapidement comment construire une application Windows 8. Au final, c'est un ensemble de paramètres que vous allez pouvoir ajouter ou pas dans votre code pour cela. Donc ça s'appuie sur le client Smooth Streaming, le SDK.
C'est plus pour construire des applications qui jouent de la vidéo dans Windows 8.
Exactement.
Une vidéo qui se trouve être servie par derrière Windows Azure Media Services.
C'est exactement ça. Voilà.
Superbe.
Voilà, donc j'avais ça, je vais te rendre la main.
Me voilà. Et moi, ben, je vais vous parler, donc ça c'est la partie média. Maintenant, on a également plein de choses à vous raconter sur ce qui s'est passé à Build. Plein. Donc Build, c'était quand même l'événement de lancement de Windows 8, Windows Phone 8. C'était la révélation de tous les éléments côté client, mais on n'a quand même pas trop oublié la partie cloud. Et donc, je vous ai fait un petit résumé très rapide de ce qui est arrivé autour de Build ou avec Build. Et il y a énormément de choses qui sont arrivées sur Azure. Alors, on va en parler à travers quelques
au fil de l'eau, ouais,
voilà, sur les blogs. Et on va voir un petit peu ce qu'on a à notre disposition. Donc, ça, c'est le nouveau portail. Ce nouveau portail, vous le connaissiez, il avait là-haut un espèce de petit sticker vert disant le portail est en preview, c'est fini, ce portail est maintenant définitif et vous avez dedans l'intégralité des éléments qu'on a l'habitude de manipuler.
Oui. C'est-à-dire qu'on trouve le service bus, on trouve toutes les fonctions SQL, Azure, et tout ce
Media
qui est
services.
Media services, tout est réuni dans le portail.
Voilà, donc ça y est, ce portail est en version finale. Nous, on n'a pas de problème particulier avec depuis le début, donc c'est une transition assez logique. Oui. Et ensuite, on va regarder un petit peu ce qu'on trouve dans ce portail. Donc vous allez trouver un blog post sur le blog Windows Azure qui est très complet et qui vous donne et ben les différentes sorties récentes sur Azure. Alors, on va les énoncer ici à toute vitesse et puis on va ensuite pas faire des petits zooms sur certains d'entre eux. Donc, mise à jour des OS sur Cloud Services.
Ouais, donc dans le SDK, on a un nouveau SDK, SDK 1.8, qui, donc SDK Windows Azure, version 1.8, qui va supporter la nouvelle version de GuestOS, qui est le GuestOS Azure version 3.0. Donc la 1.0, pour rappel, c'était Windows Server 2008, la 2.0, 2008 R2. La 3.0, c'est serveur 2012. Donc maintenant, on peut targeter version GuestOS 3.0. On va arriver sur des instances qui seront sous Windows Server 2012. Et on supporte également le déploiement de projets .NET 4.5, toujours avec les cloud services.
Oui, donc ça nous donne maintenant, quand on regarde un petit peu le panorama Azure, on a dans les VM Windows Server 2012.
Bien sûr.
On a sur Cloud Services Windows Server 2012. Okay. Et on a sur la partie Websites ASP.NET 4.5 qui arrive. Donc on est à peu près à jour là-dessus.
Tout est à jour.
Alors sur la partie Websites, on peut peut-être le voir. Tu as quelque chose
pour
nous prouver ça? Mais il faut que tu bascules ton écran.
Ça, faut que je m'y habitue. Voilà. Voilà. Donc, bon, cette interface, vous la connaissez, c'est Visual Studio.
Oh là, pas si vite. Hein. Alors, qu'est-ce que tu nous as fait là-dessus? Parce qu'il découvre un petit peu aussi de ses parties techniques, donc on aime bien le gratter un petit peu.
C'est vrai. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Donc là, j'ai créé un projet MVC 4. que j'ai basé sur le framework 4.5, puisque en fait dans ce projet, j'utilise une fonctionnalité qui est apparue avec le framework 4.5, qui est l'appel de fonction asynchrone de cette façon-là. Avant, c'était plus compliqué. Donc aujourd'hui, c'est tout simple. Donc je vais exécuter ce petit bout de code qui au final va juste attendre 5 secondes avant d'afficher bonjour. Donc allons-y. Ça va mouliner 5 secondes, on peut compter ensemble. On doit être à 3, 4, 5, et voilà.
Trop fort.
Synchro. Donc c'est tout simple, mais ça vous permet quand même de voir que le framework est disponible. Je sais qu'il y a d'autres fonctions qui sont disponibles. Je les avais listées. Alors,
pour l'instant, je ne suis pas convaincu parce que tu viens de me faire une démo en HTTP localhost.
Oh,
c'est pas très cloud. Comment est-ce qu'on fait pour déployer ça sur Azure?
T'as raison. Alors, en fait, la méthode consiste à utiliser les publish settings qui sont disponibles. Donc, on va créer un site. Allons-y, faisons-le en live.
Voilà, je veux voir.
Ah, bravo.
Donc, en fait, on peut utiliser. Finalement, il y a deux façons d'utiliser le projet web, quoi. On peut prendre le projet web, donc
dans
MVC.
Dans cette interface, on ne voit pas grand-chose.
Et le déployer dans un website avec WebDeploy. Ou bien on pourrait faire un cloud service. Et idem, inclure le projet MVC dedans et le déployer sous forme de cloud service.
Bon, comme il y a en plein dans ce démo média, on ne va pas faire ça. Tu vas rebasculer sur moi, je vais vous le montrer.
Ah, mais je sais le faire.
Oui, je sais bien, mais ton portail est plein de trucs. Donc voilà le mien. Donc vous voyez ici mes différents websites. Donc démo Python, c'est ce qu'on verra juste après. Ici, c'est un site qui fait plein de choses, mais je ne vais pas vous en parler en détail. Ce qui m'intéresse, c'est d'aller voir un petit peu la configuration du site. Et là, on a. Alors c'est assez marrant parce que ça va paumer les administrateurs et rassurer les développeurs. Pendant très longtemps, on a eu un mode de. Oups, ça c'est ma démo Python, c'est tout à l'heure. Pendant très longtemps, on a eu dans .NET, .NET 2 d'un côté, donc qui représentait en fait .NET 2 jusqu'à .NET 3.5, et puis la suite qui représentait les nouvelles versions. Ici, vous voyez apparaître maintenant .NET Framework version qui vous donne accès à directement soit un 3.5, soit un 4.5. Et c'est ça qui va vous permettre de directement prendre en main la version du framework que vous souhaitez. Donc ça, c'est pour la partie qui s'occupe de Visual Studio et de .NET. Maintenant, je vais vous montrer autre chose autour de websites. Et donc, je suis dans Visual Studio, mais c'est du Python en l'occurrence.
Ah ouais.
Donc vous savez ou vous savez pas qu'on a des outils pour faire du développement Python dans Visual Studio.
Absolument.
On a des templates et on a notamment des templates Django, donc qui est historiquement c'est le MVC du monde Python, c'est l'équivalent de Rails dans Ruby, c'est l'équivalent de MVC chez nous. Et donc c'est un framework de développement d'applications web. Donc comment est-ce qu'on fait pour héberger ça dans notre environnement website? Eh ben, c'est pas très compliqué. Il nous faut deux composants. Il nous faut le runtime Python d'un côté et il nous faut l'application qu'on désire exécuter de l'autre. Donc comment est-ce que vous allez manipuler du Python dans Azure Websites? Vous allez commencer par récupérer votre Python. Donc le mien ici, il fait des choses diverses et variées. Ensuite, ce que j'ai créé, c'est que j'ai simplement ici Démo Python que vous voyez là. Démo Python, c'est quoi? Ben, c'est en fait le site que j'ai ici dans ma liste. Là, j'ai créé un site vide, sans base, sans rien. Et ensuite, j'ai dit que je voulais l'ouvrir dans WebMatrix. Du coup, il m'a ouvert ici cet environnement-là. Et là, j'ai été relativement rapide. Je suis retourné ici sur mes fichiers. J'ai demandé à voir les différents éléments. Et je me suis créé deux répertoires bin dans lequel j'ai jeté tout mon runtime Python. Donc, je n'ai pas cherché à comprendre en particulier. J'ai copié mon environnement Python. Et puis, mon application Django que j'ai simplement mise dans un répertoire. Ouais. Ensuite, il me faut encore bootstrapper toutes ces informations, c'est-à-dire que j'ai besoin ici d'un petit fichier qui va me servir de point d'interception des requêtes. Ouais. Et donc, je vais dire ensuite à Websites, tout ce qui est requête arrivant vers toi va vers ce fichier, et c'est ensuite ce fichier qui va s'occuper de mettre à disposition les différentes fonctionnalités que j'ai mises. Alors, comment est-ce que ça fonctionne? Lorsque vous allez sur votre site ici Python, dans la partie configuration, vous avez tout en bas la gestion ici des mappings, là, et c'est là-dedans que vous allez définir le binding entre toutes les requêtes qui arrivent et votre environnement. Une fois que vous avez renseigné ça, ben vous allez simplement ici cliquer sur Publish et automatiquement, tous les binaires vont remonter, vous allez vous retrouver sur votre environnement. Alors, bon, c'est pas passionnant hein, une fois que ça fonctionne, vous voyez là-haut, là, que c'est bien demopython.azurewebsites.net, hein, c'est là que j'ai déployé. Bon, bah, c'était juste un Hello World, donc il fait rien de particulier, mais ça fonctionne sans aucun problème. Donc voilà pour cette première partie qui est les nouveautés qu'on a autour de Websites.
Websites, absolument.
Et
4.5, Python.
Voilà, 4.5, Python. Bien évidemment, c'est documenté, donc vous avez des pas à pas qui montrent comment faire du Python à la fois dans des machines virtuelles, dans des cloud services ou bien dans des websites. Bon, j'ai choisi Websites, c'était la partie qui me semblait intéressante. Un autre élément, on avait un truc qui s'appelait TFS Preview.
Mm-hmm. Ah oui.
On a maintenant Team Foundation Service. Oh. Donc ça n'est plus du tout TFS Preview. C'est en ligne, c'est final et c'est gratuit pour les petites équipes, donc jusqu'à 5 personnes, et également pour tous les abonnés MSDN à partir du niveau pro, si ma mémoire est bonne, ou premium, je ne sais plus, mais ça vous irez creuser. Et donc ça veut dire que vous avez la possibilité de bénéficier de toute la mécanique normale de développement d'applications et de cycle de vie, plus le déploiement vers Azure, que ce soit Websites ou Cloud Services, sur un plateau d'argent, tout est disponible et c'est disponible
sans
dès aujourd'hui.
Chez soi, juste sous forme de service.
Voilà, donc ça c'est une autre grande sortie. Mmh. On n'a pas beaucoup parlé pendant Build parce qu'il y avait tellement c'est de choses à voir dans tous les sens que c'est passé un peu sous le radar, mais ça veut dire qu'au quotidien, vous allez pouvoir bosser directement. Et pour tous les projets, les petits projets perso qu'on a à droite à gauche, si on veut travailler à deux ou trois là-dessus, c'est quand même la meilleure façon de travailler.
Cool.
Plein d'autres choses qui sont en train d'arriver. Alors, par exemple, donc on avait dans Windows Azure le service bus.
Bien sûr.
On l'a maintenant sur Windows Server.
Intéressant.
Et on a également Azure Web Sites dans Windows Azure et on l'a maintenant sur Windows Server. Et on est comme ça en train de dérouler un petit peu toute la roadmap qu'on avait promise de cloud hybride en disant bah, toutes les fonctionnalités sont disponibles dans un mode comme dans l'autre. On continue sur la gestion d'identité qui est un élément important. Donc on a simplement fait la mise à jour pour Visual Studio 2012 du framework de gestion d'identité. Donc c'est maintenant disponible également. Et ça, c'est fondamental pour tous ces échanges entre les différents environnements. On avait un Hadoop qui était en preview pour la partie Azure. On a HD Insight qui vous permet de faire le déploiement sur des machines Windows Server chez vous. C'est vraiment un mouvement de fond qu'on a dévoilé à cette occasion-là. On a fait un peu plus que ça. On a regardé un petit peu des scénarios. Donc là, c'est comment utiliser SSIS avec Hadoop. Alors cet article est tout à fait intéressant. Il est rédigé par Benjamin Guinbertière chez Microsoft France, Philippe Béraud de Microsoft France et Rémi Olivier de Microsoft France.
Ah bah ça alors, c'est incroyable.
Voilà, on ne sait juste pas pourquoi ils l'ont fait en anglais. Mais donc ça nous donne aussi des scénarios très concrets pour l'entreprise. Parce que Hadoop, en général, on tourne autour en disant qu'est-ce qu'on fait avec et maintenant on peut le raccorder à des composantes beaucoup plus traditionnelles chez nous. Voilà, je rentre pas ensuite dans les nouveautés
le portail,
sur le service, le portail, etc.
On a des détails sur.
Il y a quand même un élément que j'aimerais peut-être vous montrer, c'est la partie mobile services. Mmh. Donc on a dit que mobile services évoluait. C'est marrant, c'est le morceau le plus récent chez nous et c'est celui dont l'utilisation est quasi exponentielle.
Donc il y a une vraie demande. Suivant là, le lancement de Windows 8, le lancement de Windows Phone 8, en fait, il y a beaucoup de petites applications mobiles qui ont besoin d'un back-end simple. Souvent, c'est stocker un high score, peut-être authentifier l'utilisateur, c'est faire des choses très très simples. Et pour ça, on n'a pas envie, surtout quand on est développeur d'applications mobiles, de déployer un back-end complexe. Mobile Services, c'est un back-end prêt à l'emploi.
Voilà, donc ce back-end, il avait trois grandes fonctions, qu'il a toujours. Hein. Il a une fonction de gestion de données. Il a une fonction de gestion d'authentification et il a une fonction de gestion de notification. Donc, son périmètre initial, c'était Windows 8. Et quand on l'a sorti, on a fait comme ça. Il y a eu des blog posts et on en a parlé expliquant comment l'utiliser sous iOS ou sous Android. Maintenant, les bonnes nouvelles, c'est qu'on va un cran plus loin et on a la possibilité de manipuler directement depuis le portail les versions iOS et les versions Windows Phone 8. Donc ça, c'était la petite surprise pendant Build, c'est
Ah, tout à
que
fait.
on a mis en ligne dans Mobile Services les fonctionnalités de Windows Phone 8 en même temps qu'on dévoilait l'intégralité des fonctionnalités qui allaient autour. Donc voilà un petit peu la partie. Alors, j'ai plus de réseau ici, je dois l'avoir ici. Voilà, on va juste revenir ici. Donc si je prends un petit mobile service, en voilà un. Dans ce mobile service ici, regardez bien, on a donc ici un choix de plateforme. Alors un point important, ça ne change pas vos données.
Non, bien sûr, ça.
Ça change simplement cette page d'accueil ici qui vous permet d'avoir des templates prêts à l'emploi pour une techno ou pour une autre. Mais bien évidemment, vous pouvez utiliser le même mobile service pour des accès de données, par exemple, depuis les trois plateformes. Et donc ici, voilà. Vous pouvez à chaque fois comment faire pour connecter une application donc iOS ou comment faire pour connecter une application Windows Phone. Et à chaque fois, on va vous fournir ici
Le
un
SDK, les
template
templates.
si vous désirez découvrir from scratch ou bien la petite recette de connexion avec les différents éléments à insérer si vous avez une application qui existe déjà. Donc voilà ici cette partie Mobile Services. Il y a d'autres améliorations qui vont venir dessus. Aujourd'hui, on n'a pas le support des notifications pour toutes les plateformes. Par contre, l'autre nouveauté intéressante, c'est qu'on a maintenant le support de l'authentification avec de multiples providers. Donc, c'est la chose qu'on n'avait pas encore complètement mis en place la dernière fois. Et vous avez maintenant, vous voyez ici,
Facebook,
Microsoft,
Twitter.
Facebook, etc., etc. Donc, tous ces éléments sont disponibles. Voilà, donc c'est ce que je vous racontais ici. Alors,
Voilà.
autre chose très intéressante, vous voyez ici mail, SMS, etc., etc. Alors ça, d'où ça vient? On est en train de nouer plein de partenariats autour de nous. Donc, c'est quelque chose d'assez logique. Lorsque vous avez une plateforme de type Azure, eh ben, on s'en sert pour construire des applications à l'aide de blocs prêts à l'emploi. Alors ces blocs prêts à l'emploi, on en a annoncé plein. Alors,
Dans le
donc ça
haut.
s'appelle Azure Store. Alors, c'est pour l'instant disponible uniquement pour le marché américain.
Américain.
Mais si vous voulez jouer avec, sur les six services qui sont là, il y en a quatre qui ont des offres gratuites que vous pouvez
On
prendre, y
peut
compris depuis
essayer.
la France.
Tout à fait.
Donc, vous ne passerez pas par le portail pour les prendre, mais vous pouvez tout à fait commencer à jouer avec. Alors, vous expliquer en deux mots ce qu'elles font peut-être?
Enfin, déjà, l'intérêt du Windows Azure Store, donc, c'est qu'on peut souscrire à ces offres, donc les offres commerciales, et avoir toute la facturation qui se fait sur un seul compte. C'est-à-dire que tout va être facturé sur le compte Azure. Donc vous avez une seule facture qui est votre facture Azure, et dessus, il y a vos VM, votre réseau, etc. Plus, si vous avez besoin, bah, votre New Relic, votre MongoLab, etc. Donc tout est centralisé, vous n'avez pas besoin d'aller payer chaque fournisseur en plus. Donc ça c'est pratique. Et après, donc les services par ailleurs, ils sont intégrés à Azure et on en a un certain nombre. Donc globalement, il y a des services, on va dire, de monitoring. Donc New Relic, AppDynamics, ça va vous permettre d'ajouter des fonctionnalités de monitoring applicatif très facilement dans vos applications. Donc pour suivre sur un tableau de bord, eh bien, les performances, des choses comme ça. On a des fournisseurs de type stockage. Donc CleardB fournit du MySQL as a service. MongoLab fournit du MongoDB as a service. Donc là, si vous avez besoin de ce type de stockage-là, qui n'est pas en standard de Azure, hop, vous prenez une offre. Il y a des offres gratuites, mais aussi vous prenez une offre commerciale. Encore une fois, elle est consolidée sur votre facture Azure. Aspera, c'est plus
C'est plus média.
du média, c'est de l'ingestion. Hein, donc
C'est de la
c'est.
gestion, c'est vraiment pour envoyer des données très vite. En fait, ils passent par de l'UDP et ils peuvent monter à des taux de très rapide, de l'ordre de 500 mégabits par
Voilà, donc
seconde.
pour
Ils
envoyer des
arrivent à
gros
faire
fichiers
des
vidéo, on les envoie beaucoup plus
très
vite
vite,
avec
ouais,
Aspera
complètement.
vers Azure. Et SendGrid, alors là, c'est plus une série de briques qu'on va développer. Là, pour l'instant, c'est de l'email. Donc, on a très, très, très souvent la question, comment j'envoie du mail depuis mon application Azure? Donc, SendGrid, ils sont spécialistes en envoi de mails massifs. Ils ont
Oui.
une API très simple. Ils vous offrent, je ne sais plus combien, 1000 ou envois de mails par mois gratuits. Quelque chose comme ça. Et ils ont une API .NET, bien sûr, mais dans tous les langages. Ils sont très connus. Et donc, on va enrichir tout ça avec de l'envoi de SMS, dans des partenariats avec une
Oui,
société
alors
très connue.
je rappelle Twilio, hein, qui
Voilà,
a une
Twilio,
offre pour nous
exactement.
aujourd'hui pour Azure. Et Twilio vous permet d'avoir de la voix,
De la voix aussi. On
du
pouvait
SMS,
recevoir des appels voix, passer des appels
voilà, du
voix, recevoir des
text-to-speech.
SMS. Ils font plein de choses très, très sophistiquées. Et ce, partout dans le monde. Donc, c'est quelque chose d'assez assez pratique.
Voilà. Alors, si vous êtes un éditeur de logiciels et que vous avez envie d'apparaître là-dedans, c'est pas parce que c'est destiné au marché américain que des Français ne peuvent pas s'intégrer dans le store.
Bien
donc
sûr.
Là aussi, vous revenez vers nous. Donc l'accélérateur Azure, c'est encore une fois un très bon point d'entrée pour nous atteindre et discuter un petit peu de qualification. Donc si vous avez aujourd'hui un service qui tourne et que vous voulez intégrer, manifestez-vous. Et on sait exactement par quel bout remonter vers nos instances dirigeantes. Voilà un petit peu pour ces nouveautés. Est-ce que j'ai d'autres choses à vous raconter là-dessus?
On pourrait signaler donc le cache distribué en version finale. Hein, donc on avait quelque chose qui s'est appelé d'abord App Fabric Cache, puis ensuite Cache tout court, qui était donc un cache distribué mais mutualisé. Donc vous achetiez un abonnement et ça vous donnait droit à par exemple 16 gigas de cache distribué. Là, ce qu'on sort en version finale, c'est un cache dédié. Donc vous pouvez déployer un cloud service dans lequel des nœuds vont faire tourner App Fabric Cache ou cache tout court. Et donc vous aurez vos VM qui font tourner votre cache distribué à vous et vous pourrez utiliser toutes les fonctionnalités de App Fabric Cache version serveur par rapport à la version Azure qui était un peu restreinte en termes de fonctionnalités. Donc ça, c'est en version finale et si vous utilisez le cache aujourd'hui dans des on va dire solutions haute performance avec de fortes charges, bah, c'est une bonne solution pour mieux maîtriser cette brique-là.
Et on rappelle que ça marche aussi avec un frontal Memcache.
Alors absolument, ça émule l'API Memcache. Donc si votre application sait parler à du Memcache, ça saura parler à notre cache distribué. Et puis peut-être un dernier petit mot sur la partie storage. En fait, donc il y a plein de petites nouveautés, en petites grosses nouveautés sur la partie storage. D'abord, on a annoncé en fait une nouvelle architecture réseau qui permet d'optimiser en fait les performances du stockage. Donc on a augmenté pas mal toutes les ce qu'on appelle les cibles de performance de stockage. Donc tout ce qui est on va dire débit de téléchargement, nombre de requêtes par seconde, etc. Tout ça a été augmenté grâce à une nouvelle architecture réseau. Et on a sorti une nouvelle version de ce qu'on appelle le Storage Client, donc qui est notre
SDK
de .NET client. Voilà. Donc une version 2.0 qui inclut plein de choses et quelque chose qui était très demandé notamment, c'est une API simplifiée pour les tables. Parce que le Table Storage, avant, s'appuyait sur l'Entity Framework, c'était pas très souple, ça permettait pas d'utiliser finement, on va dire, les fonctionnalités du Table Storage. Là, on a une API de beaucoup plus bas niveau qui permet d'utiliser ça plus finement et d'atteindre de bien meilleures performances en fait sur le table storage. Donc il y a plein de nouveautés dans cette nouvelle version du storage client. Intéressant à regarder.
Alors pour bénéficier de cette nouvelle fonctionnalité de storage côté Azure, c'est pas très compliqué. Vous allez dans votre abonnement, vous regardez la date de création de votre storage.
Absolument.
Si c'est antérieur au 7 juin, vous êtes sur l'ancienne infrastructure.
Exactement.
Si c'est postérieur au 9 juin, vous êtes sur la nouvelle infrastructure. Si c'est entre les deux, je ne sais pas. Voilà, c'est ce qu'on a pour l'instant nous observé chez les clients. Donc,
ce qui est certain, voilà, c'est que si c'est avant juin 2012, il faut créer un nouveau compte de stockage pour pouvoir bénéficier de cette nouvelle architecture.
Et ben voilà un petit peu. Donc vous voyez, c'est quand même très très riche. On passera un petit peu de temps sur des éléments plus spécifiques lors des prochaines éditions, mais là on avait tout ça qui nous est tombé d'un seul coup sur la tête. Donc un grand merci. On a terminé pour cette édition-ci et on se retrouve dans un mois pour la dernière édition avant le gros rush de Tech Days.
C'est vrai.
Là aussi, vous pouvez en ce moment soumettre des suggestions de sessions sur techdays2013.cloudapp.net. N'hésitez pas pour Azure, puisque nous, on prend les décisions entre maintenant et le prochain bulletin sur quelle session, quel programme, etc.
Super.
Et ben voilà, merci à tous et
merci à tous.
Merci
à tous.